Bonjour Philippe Martinez.
Bonjour.
Quand on lit un titre comme celui-ci, « Mon tour de Gaulle », édité chez Plon, la maison d'édition historique des mémoires de guerre du général de Gaulle, on se demande si on n'a pas une forme d'hallucination et s'il ne manque pas un L dans le mot « Gaulle ». Mais la moustache gauloise nous ramène sur Terre. C'est bien un récit passionnant que vous nous livrez, Philippe Martinez. Pour planter le décor, le lecteur peut s'entourer de deux citations. En frontispice de votre ouvrage, celle du grand Jean Ferrat, d'abord extraite d'un de ses plus beaux textes, « Ma France », qu'elle monte des mines, descende des collines. Celle qui chante en moi, la belle, la rebelle, elle tient l'avenir serré dans ses mains fines, celle de 36 à 68 chandelles, « Ma France ». Et puis ce texte de vous, en quatrième de couverture de ce livre, je vous cite, « On nous prend pour des râleurs, des mangeurs de merguez. On est surtout des gens qui tiennent debout, ensemble. » Je crois au syndicalisme tant qu'il sait se renouveler, écouter la jeunesse, les femmes, les démunis, parler climat, égalité et dignité. La France que je raconte, c'est celle qu'on voit peu, qu'on n'écoute pas. La France qui bosse, qui s'entraide, qui refuse de courber les chines et qui souvent sait rire en résistant. Alors, en résistant, on va commencer par en parler. Je ne vais pas faire l'injure de vous présenter. Je dirais simplement que vous avez été secrétaire général de la CGT entre 2015 et 2023. Je rappelle cet espace-temps. Et vous nous racontez, page 115, que vous êtes entré dans la vie active à 21 ans, 1982, comme technicien chez Renault à Boulogne-Billancourt. Les journalistes, les observateurs parlaient alors de la forteresse ouvrière de l'île Segrin. Le nom officiel de Renault, alors, c'était l'Arnure. Régie nationale des usines Renault, entreprise automobile nationalisée par le général de Gaulle, chef du gouvernement provisoire de la République française, gouvernement dans lequel siégeaient des ministres communistes, entreprise nationalisée, je le précise, pour collaboration active avec l'occupant. Pardonnez-moi si je ne suis pas exactement l'ordre chronologique de vos 17 chapitres, en comptant votre introduction et votre conclusion. Je voudrais qu'on s'attarde un peu, pour commencer, sur ce que vous appelez « Mon histoire, une France ouverte ». C'est votre sixième chapitre, page 105 et suivante. Vous évoquez vos origines immigrées dans ce chapitre, vos grands-parents paternels qui quittent une Espagne de misère avant la Première Guerre mondiale et qui s'installent dans ce qu'on appelle alors la Petite Espagne, à Saint-Denis. Votre père qui naît en 1914, en 1936, il va rejoindre les brigades internationales à 22 ans pour combattre contre le fascisme et contre les troupes de Franco. Votre oncle, Francisco Asensi, lui aussi combattant des brigades internationales, infatigable militant de la cause ouvrière, qui a connu, dites-vous, 72 patrons, autrement dit presque autant de licenciements. Votre tante, la plus jeune sœur de votre père, Angèle Martinez Koulikoff, résistante, communiste, dès l'été 1940, il n'y en avait pas beaucoup à ce moment-là, il y en a eu beaucoup après, arrêté en 1941, déporté à Ravensbrück et Mauthausen, comme nombre de détenus communistes qui avaient des origines espagnoles à Mauthausen. Elle a survécu. Et votre mère, quant à elle, elle arrive plus tard d'Espagne, dans les années, au début des années 50, dites-vous, elle laisse derrière elle à la fois la misère, comme votre papa et sa famille, mais également le franquisme qui est installé. Votre famille est une famille militante, et plus que cela, elle est combattante contre le franquisme, contre le nazisme, contre les injustices de toute nature. Alors, je vous laisse nous raconter, vous le faites très bien dans le livre, votre relation à l'Espagne. Autre chanson, de très belle chanson de Jean Ferrat, hein, et le début de votre engagement politique à 14 ans, aux Jeunesses communistes, parce que ce n'est pas à Astérix que renvoient vos 20 premières années, c'est à son copain Obélix, parce qu'on peut dire que vous êtes tombé dans la marmite militante quand vous étiez petit.
Oui, certainement. J'ai moins grandi qu'Obélix. Je ne sais pas porter les menhirs.
Et vous dites grandi, hein, pas grossi. Hein,
parce que... Mais il est plus grand que moi aussi. Enfin, en tout cas dans la BD. J'ai baigné dans ce monde militant, parce que je le dis aussi, comme mes parents n'avaient pas leur permis de conduire, donc pas de voiture, le lieu de rendez-vous régulier de la famille, c'était chez nous, puisque de temps en temps on allait chez les autres en bus et en métro, mais c'était principalement à la maison. Donc j'ai vécu très jeune des discussions que je ne comprenais pas toujours, mais au fil des années j'ai mieux compris. Et donc, c'est oui, j'ai été baigné dans cette ambiance entre la guerre d'Espagne, la résistance, la déportation, les engagements aussi plus tard, parce que mon père était militant CGT, pas communiste, mais CGT. Et puis aussi, en allant en Espagne, parce qu'on allait une année sur deux, comme beaucoup de familles d'émigrés, on va une année sur deux dans le pays de ses origines. Bah, en allant en Espagne, il y avait aussi des militants antifranquistes, souvent dans la clandestinité, puisque c'était Franco qui était au pouvoir. Donc oui, on peut dire que je suis tombé dans la potion magique du militantisme assez tôt.
Et votre maman, elle rentre très tôt au Parti communiste.
Oui, mais c'est le paradoxe entre ma mère et mon père. Ma mère était aussi issue, donc je l'ai dit, d'une famille militante, pauvre. Antifranquiste.
Pauvre, oui.
Pauvre. Et je crois que je le dis dans le livre, j'en suis même sûr. Oh, peut-être pas, non. Le surnom de mon grand-père maternel, c'était Staline.
Non, vous le dites pas.
Bah, je vous le dis alors. Donc ça plante le décor. Il avait de la moustache aussi. Mais ce n'était pas que pour la moustache qu'il avait ce surnom. Donc ma mère, quand elle est arrivée en France, naturellement, où elle a retrouvé deux de ses frères qui étaient déjà qui étaient venus avant elle, bah, elle s'est engagée rapidement au PC. Pas tout de suite, parce qu'elle a été, comme toute espagnole, bonne chez des bourgeois, c'est pour ça que j'aime beaucoup.
Vous dites ça rappelle le film de Lucchini,
Les femmes du sixième étage. Ouais, c'était tout à fait l'ambiance. Quoi, les immigrés qui travaillaient dans le même immeuble ou dans le même pâté de maison espagnol et qui se retrouvaient le dimanche autour en général d'une paella, mais pas que, et qui parlaient du pays, quoi. Et donc, elle s'est rapidement engagée au parti communiste, contrairement à mon père.
Dans ce chapitre qui est personnel, il y a immédiatement aussi question, et concomitamment, de questions sociales, de questions de fond. Et vous évoquez la situation des travailleurs immigrés sans papier. Et vous prononcez clairement pour leur régularisation, je vous cite, « L'exploitation des travailleurs sans papier représente un scandale inacceptable. La première protection qui leur est due est la régularisation. » Et à la fin de ce chapitre, vous dites « Toutes les fois que nous défendons les travailleurs et luttons contre le racisme et la xénophobie, nous faisons vivre les principes les plus fondamentaux de la CGT. » J'avais une question qui était peut-être un petit peu liée aussi aux évolutions. Est-ce qu'il vous a fallu faire œuvre de pédagogie et de conviction pour amener les adhérents de la CGT à défendre, quand ils pouvaient le faire, la situation des travailleurs immigrés sans papier? Ou est-ce que la solidarité de classe a joué immédiatement, spontanément, et qu'il y avait une sorte de réflexe de défense?
Oui, je crois que ça, c'est la solidarité de classe et l'esprit internationaliste qui joue. Et ça, c'est dans les gènes de la CGT. Et donc, évidemment, quand on a des origines immigrées et qu'on a entendu des histoires d'immigrés qui sont arrivés dans le pays, on se dit, mais en fait, c'est pas une question de couleur de peau, de religion. Tous les immigrés, au fil du siècle, ou même avant le siècle dernier, qui sont arrivés en France, ont subi les mêmes attaques des mêmes de l'extrême droite. Souvent, ma grand-mère me disait, mais on entendait souvent, vous venez manger le pain des Français. Et pourtant, elle venait d'un pays où on est plutôt, même si on est un peu bronzé, mais on est plutôt blanc. Et où c'est le catholicisme qui prime, d'ailleurs. Oui,
avec les mots comme les espingouins, par exemple.
Et chacun avait son terme pour définir les formes d'immigration, les espingouins, les ritals, les polacs, etc., etc. Donc, on a, quand on est issu de l'immigration, déjà cette fibre-là. Et je le dis, je suis... Enfin, vous l'avez répété, d'ailleurs, j'ai travaillé dans l'île Seguin. Et dans l'île Seguin, il y avait 10 000 salariés, c'est une grosse usine, c'est pas une île déserte, et plus de 80% étaient immigrés, surtout d'Afrique et du Maghreb. Et j'ai vécu à ce moment-là, j'étais jeune, embauché, mais j'ai découvert d'autres cultures, d'autres traditions. Et évidemment, c'est ça qui génère de la solidarité. Alors, par la suite, oui, les travailleurs sans papier, ça, c'est bien avant mon arrivée à la tête de la CGT. Mais il suffit. Voilà, on a beaucoup d'entreprises, alors pas directement, mais par le biais de sous-traitants, font travailler de la main-d'œuvre immigrée et souvent sans papier. Alors, ils ont des papiers, mais pas pour rester en France, y compris avec quelques ministres de l'Intérieur que nous avons connus ces dernières années. Et c'est eux qui contribuent aussi à la richesse et à l'économie du pays. Et donc, pourquoi, et dans l'île Seguin ou dans les années 70, d'ailleurs, on allait les chercher. Au Maghreb, c'était le fruit de la colonisation, etc. Et on allait les chercher pour faire tourner l'économie française. Donc, c'est tout ça qui nourrit cette fraternité, cette solidarité entre travailleurs, travailleuses, quelle que soit l'origine. Et mon premier engagement en tant que secrétaire général de la CGT, c'était 18 coiffeuses à Paris. C'était boulevard Saint-Denis, c'est un boulevard qui va vers la gare de l'Est, où c'est que des coiffeurs. Et donc, il y a non seulement de l'exploitation de travailleuses, c'est beaucoup des travailleuses, mais c'est de la traite de l'être humain, puisque on leur prend leur passeport, on les oblige à travailler souvent 12 heures, 15 heures, et toujours sous la menace d'une dénonciation à la police si on n'obéit pas. Alors, évidemment, le salaire n'est pas au niveau du SMIC, hein, je peux vous le dire.
On revient aux premières pages de votre livre. Dans le trait de jeu, vous formulez un constat. La France se définit mieux, dites-vous, par ses conquêtes sociales que par ses passions religieuses et ses obsessions identitaires. Puis plus loin, vous ajoutez ce côté gaulois. Cette image du peuple râleur et toujours en grève est une caricature entretenue avec constance par des experts autoproclamés du social, commentateurs avisés de notre modèle de solidarité et des luttes syndicales, ils se reconnaîtront. Ne pas admettre une colère légitime et une lassitude qui confine parfois au désespoir, c'est grave et cela confirme le décalage évident entre les élites, entre guillemets, dirigeantes et la très grande majorité de la population. On a souvent le sentiment en France que les responsables politiques élus de la nation, y compris dans les partis dits de gauche, ne comprennent pas grand-chose aux luttes sociales et au fonctionnement des organisations syndicales, ou font exprès de ne pas comprendre, comme si la charte de d'Amiens, par exemple, ils connaissaient pas quoi. Comment vous expliquez ça, cette espèce d'incapacité à comprendre qu'il y a les partis politiques d'un côté, les forces syndicales de l'autre, c'est le modèle français.
Alors, il y a plusieurs choses dans ce que vous dites. La première chose, c'est ceux qui n'y connaissent rien. Moi, je ne mets pas tous les politiques dans le même sac. Il y a ceux qui n'y connaissent rien. Pour vous donner une image et un nom, typiquement, c'est le président de la République. Quoi.
On va revenir sur lui parce que
j'espère.
Vous en occupez.
Bien. J'espère. Mais y compris dans la représentation nationale, comme on dit, c'est-à-dire ceux qui sont présents à l'Assemblée nationale, on a beaucoup parlé d'ouverture à la société civile. Je ne sais pas ce que ça veut dire, la société civile. Et il y a quelques années, plus d'une décennie, il y avait, vous le savez bien, dans la représentativité nationale, il y avait beaucoup, ou en tout cas un certain pourcentage d'élus qui avaient travaillé dans leur vie. Je ne dis pas que les députés ne travaillent pas, mais qui avaient travaillé. Or, aujourd'hui, c'est beaucoup des cadres supérieurs, des avocats, des médecins qui représentent l'ensemble du monde du travail. Et c'est ce petit décalage, ce grand décalage, me semble-t-il, qui fait que ils nous expliquent des choses, mais qu'ils ont appris soit sur des fiches qu'on leur a préparées, soit... parce qu'ils ont une conversation, je ne sais pas où, au coin de la cheminée, quelque part. Et donc, on a l'impression qu'ils vous expliquent. C'est pas une impression. Ils sont capables de vous expliquer votre vie sans la connaître. Et ça, c'est grave. Ça, c'est grave. Parce que ça, évidemment, ça fait un décalage énorme avec ce que vivent la majorité, ce que vit la majorité de la population de ce pays. Donc ça, c'est ce décalage. Alors après, sur la... sur la question de la charte d'Amiens, oui, c'est un fait que la CGT, on évoquait à juste titre, que c'était la courroie de transmission du Parti communiste pendant plusieurs décennies. Mes prédécesseurs, surtout deux, Georges Séguy puis Louis Vianney, ont insisté sur l'indépendance que doit avoir la CGT, les syndicats en général, mais la CGT pour ce qui me concerne, vis-à-vis des partis politiques.
Or, c'est pas pour rien que ce sont les deux que vous citez vraiment, puisque vous terminez votre livre sur une citation de Séguy,
oui, oui.
Et vous avez une mention spéciale pour Vianney.
Oui, parce que...
Vous parlez des autres aussi, mais...
Oui, je parle des autres aussi, parce que Louis Vianney, je l'ai très bien connu, y compris quand il a quitté ses responsabilités, et c'est lui qui a beaucoup fait pour une plus grande ouverture de la CGT vers la diversité du monde du travail. Par exemple, les premières luttes de travailleurs sans papier, c'était à l'église Saint-Bernard avec Monseigneur Gaillot, c'est Louis Vianney, Emmanuel Béard.
En 2005 ?
Exactement.
En 95.
C'était même en 95,
14. La présidence, le début de la présidence Chirac,
d'accord.
Avec Debré à l'intérieur.
Et il a quitté, c'est le premier secrétaire général qui a quitté le bureau politique du Parti communiste. Ça a fait événement. Or, aujourd'hui, y compris ceux qui ont pu, par le passé, critiquer cette notion de courroie de transmission, eh bien, disent, mais il faut que les syndicats soient derrière nous, derrière les partis politiques, et ils ne peuvent qu'agir. Donc, on a eu quelques discussions, notamment dans la dernière période, au moment du mouvement des retraites en 2023, avec quelques partis politiques, la France Insoumise, par exemple, voulait absolument que cette lutte sociale soit menée de concert entre les syndicats et les partis politiques. Évidemment, ça a créé quelques tensions.
Alors, vous disiez tout à l'heure, on rencontre des personnes qui vont vous expliquer votre vie, notre vie sans l'avoir vécu. C'est le, c'est le titre du premier chapitre, les champions de la théorie. Et vous démarrez ce chapitre par un aphorisme de Pierre Desproges que vous a offert sous la forme d'une petite affichette un ami à vous que les Girondins connaissent bien, Jean-Claude Gomez, parce qu'il a été pendant plusieurs décennies le responsable, un des cadres dirigeants de la fédération départementale du Parti communiste en Gironde. Il n'est pas là ce soir, vous savez, il est en voyage. Et cette affichette, que je connais, dit « Un jour, j'irai vivre en théorie, parce qu'en théorie, tout se passe bien. » Et vous dites, vous l'avez collé, dites-vous, sur la porte de mon bureau, 8e étage de la Confédération à Montreuil, et vous dites qu'elle faisait, je vous cite là, qu'elle faisait sourire la plupart de celles et ceux qui me rendaient visite, et d'autres moins, ou bien qui riaient jaune, y compris parmi les camarades de la CGT. Alors, si j'ose dire, rire jaune pour un syndicaliste, c'est le début d'une mauvaise passe.
Oui, on peut le dire.
Hein, on peut le dire, si vous voyez ce que je vais dire.
Très bien.
Vous dites que vous n'avez rien, a priori, contre les théoriciens. Bon, c'est pas utile, la théorie, quand on dirige un mouvement syndical?
C'est très utile. Mais la théorie sans la pratique, il faut réfléchir au sujet. Pour parler des syndicalistes qui riaient jaune, peut-être rouge parfois certains, mais j'ai dit jaune, c'est la notion de il suffit d'appuyer sur un bouton pour déclencher une grève générale.
D'accord.
Ça, c'est la théorie. Et souvent, à ceux-là, qui sont pas nombreux, mais il en existe, je leur disais, bah, venez avec moi, on va aller dans une usine ou dans un bureau ou dans un hôpital, vous allez vous mettre au milieu du personnel, vous allez m'expliquer comment vous faites pour les mettre en grève. Et si ça marche, je signe. J'ai pas eu de volontaire. Donc voilà, c'est ça la théorie. Mais de l'autre côté, si je puis dire, et je cite un exemple, peut-être vous y reviendrez, mais un exemple d'un des plus grands amis du président de la République, qui a été son directeur de cabinet à Bercy, puis qui a été secrétaire général de l'Élysée pendant au moins 6 ans ou 7 ans. Qui, la première fois qu'il m'a vu, m'a parlé pendant 25 minutes de mon entreprise, de comment ça se passait, etc. 25 minutes.
Renault.
Donc je l'ai laissé parler 25 minutes. Et je lui ai dit, au bout de 25, quand il a fini de me parler, je lui ai dit, moi, ça fait 35 ans que je travaille chez Renault, je vais vous donner ma version de l'entreprise où je travaille. Vous voyez, c'est typiquement ça, quoi. Des gens qui savent tout, qui connaissent tout, et qui essayent pas, qui vous expliquent comment vous devez faire, comment vous devez réagir. Et ben ça, c'est insupportable pour moi, mais pour la majorité des citoyens, des citoyennes de ce pays, ils en ont marre qu'on leur dise tout va bien, faites plus d'efforts. Alors ça se traduit par des petites phrases, il suffit de traverser la rue pour trouver du boulot. Ça, c'est typiquement les théoriciens qui n'ont jamais mis les mains dans le cambouis, comme on dit, ou le nez dehors, en tout cas au marché, au café, au stade, vous voyez, où on rencontre des vrais gens, quoi.
Alors, il n'est pas justement surprenant que de trouver dans le chapitre consacré aux champions de la théorie Emmanuel Macron, président de la République.
Oui, oui. Donc, c'est la médaille d'or, si je puis dire.
Voilà, sur la première marche du podium. Vous nous faites le récit de votre première rencontre avec lui. Il n'est pas encore président de la République. Pour vous, d'ailleurs, c'est une première parce que vous découvrez, vous venez d'être élu à secrétaire général à CGT. Mmh. Vous êtes invité sur le plateau de France 2 avec David Pujadas. Et donc, il est ministre de l'économie. On est en mars 2015. Et je vais vous laisser nous raconter cet épisode et puis surtout cette attitude que vous qualifiez de copain-copain, complice même, point d'exclamation. Et puis vous avez une première rencontre élyséenne avec lui, donc, et là c'est du plus haut comique parce que c'est une rencontre où vous êtes trois, le président, vous et son chien, et vous faites sortir le chien.
Oui, oui.
Racontez-nous ça parce que c'est très bien écrit. Et les deux histoires.
Alors l'histoire du chien, donc il est de coutume, paraît-il, que les présidents de la République
aient un chien. Bon, on a connu Jugurtha chez Giscard, on a connu
Mitterrand, Hollande.
Voilà.
Et donc première fois que je vais rencontrer Emmanuel Macron à l'Élysée, donc j'arrive, son bureau est à l'étage, donc je monte à l'étage et on attend dans l'antichambre. Et d'un seul coup, je vois un chien qui arrive en courant. Et vous savez, sur le parquet ciré, les chiens, à chaque fois qu'ils tournent, ils dérapent, ils glissent et tout. Je dis, tiens, c'est marrant, quoi. Et donc, je rentre dans le bureau de Macron et le chien me suit.
Et vous avez reconnu, peut-être, non?
Peut-être. Enfin, moi, c'est la première fois que je le voyais. Il a,
ouais.
Il a dû se dire, je vais surveiller. C'est un poteur de troupe qui est rentré dans le bureau du patron. Et donc je m'assois et je dis à Emmanuel Macron, je lui dis c'est une rencontre pour travailler. Il me dit oui, pourquoi? Ben, je dis on est trois dans le bureau. Il me dit non, on est que deux. Je dis mais ça c'est qu'est-ce qu'il fait là le chien? Ben, il me dit mais c'est mon chien. Je dis oui, mais une rencontre de travail c'est un tête-à-tête.
Il vous dit vous avez peur des chiens?
Et après il me dit vous avez peur des chiens? Je dis non, j'adore les chiens. Mais quand on est là pour bosser, c'est pas une réunion de famille ou entre amis. Et donc, il a fait sortir le chien par un huissier. C'est typiquement son attitude que vous avez évoquée précédemment. Alors, la rencontre à la télé, oui, c'était. En fait, il était ministre de l'économie. Ça faisait quelques jours que j'essayais d'avoir un rendez-vous pour me présenter. Et quand j'arrive à cette émission. Évidemment, ils ont beaucoup de conseillers, donc il a dû se douter que j'allais lui dire, mais c'est bien de se voir parce que ça fait donc un conseiller avait pris rendez-vous la veille, donc j'avais un rendez-vous à Bercy avec lui. Et typiquement, donc ça s'est plutôt bien passé, mal passé, je sais pas, puisque lui c'était enfin pour les je sais pas, je vous vois pas, mais. Moi, je suis très vieux, donc c'était à cette époque-là, c'était présenté. Alors j'ai dit le prince de la finance. On m'a dit non, c'était le Mozart de la finance. Donc j'ai répondu, c'était peut-être Beethoven parce qu'il était un peu sourd, Macron. Donc c'était un héros, quoi. C'était celui qui allait tout changer, etc. Et donc il a fait, il était brillant dans son domaine. Et moi, la veille, j'avais été dans un hôpital psychiatrique à Lyon. Mm-hmm. Et les filles, parce que 80-85% du personnel hospitalier sont des femmes, m'avaient dit le matin, on se dépêche d'arriver parce que celles qui arrivent les dernières n'ont plus de linge de toilette et donc il faut laver les patients avec des chaussettes et les essuyer avec des draps. Et après le brillant exposé du Mozart de la finance qui disait faut faire des économies, quand vous lui racontez, enfin quand vous vous dites ça en public comme ça, il est obligé de dire non, ça c'est pas possible, on peut pas faire des économies partout. Voilà, c'est pour ça que je dis confrontés, les théoriciens confrontés à la réalité sont souvent malmenés. Alors, pour en finir, toujours sur cette anecdote, j'ai remarqué à cette occasion le rituel que fait Emmanuel Macron, et je m'en suis rendu compte après, parce que maintenant je le vois à la télé. D'ailleurs, je l'ai plus souvent vu à la télé.
Oui, parce que vous dites, je l'ai vu deux fois en 6 ans.
C'est ça.
Alors que vous aviez vu Hollande deux fois en 2 ans.
C'est ça. Hein. Et donc, son rituel, c'est il vous serre la main. Rappelez-vous de la poignée de main avec Trump, là. Où il vous tape sur l'épaule gauche et il vous fait un clin d'œil. Et il fait ça à tout le monde. C'est-à-dire que il veut charmer. Et son deuxième principe... Son deuxième principe, c'est quand on avait donc j'avais été à Bercy un peu plus tard que cette émission, c'est le truc typique, c'est bah, vous pouvez m'appeler Emmanuel. Et donc je lui ai dit oui Monsieur Macron, parce que il faut garder de la distance. Mais typiquement, il veut charmer, il veut être le personnage qu'on aime ou la personne qu'on aime. Et bah, vous regarderez maintenant quand vous le, si vous le voyez à la télé, quand il rencontre Zelensky, Trump ou je sais pas s'il fait ça avec Sophie Binet, mais ou avec Marie-Lise Léon, mais c'est typiquement celui qui veut vous charmer, vous montrer qu'on est ami quoi.
Alors vous montrez bien plus loin, page 53, que d'une certaine façon, ça c'est de la forme, hein. c'est de l'écume, parce que dans la réalité, vous dites, la conception du syndicalisme chez Emmanuel Macron, c'est une pure relation de service qui ne conçoit pas l'autonomie des partenaires sociaux et encore moins leur indépendance.
C'est ça. En fait, sa conception, puisqu'il ne connaît pas, c'est... C'est une conception qu'on rencontre beaucoup, de plus en plus dans les entreprises, hein, qu'elles soient publiques ou privées. C'est en gros le syndicat, quel qu'il soit, hein, doit être au service de la cause. Donc, on est juste là pour mettre en œuvre des décisions prises soit par le pouvoir politique, soit par la direction d'entreprise.
Il y a des courroies de transmission, quoi.
C'est plus qu'une courroie de transmission, là. Il y en a au moins deux, là. Mmh. Et donc, dès que vous êtes, vous contredisez. En gros, ce qu'on vous demande d'appliquer, vous êtes un ennemi, évidemment. Ou alors, vous n'avez rien compris, etc. Et ça, c'est ça, Macron, c'est typiquement... voilà. Donc, c'est ses discours en disant l'action des syndicats doit se limiter à l'entreprise. Il dit on ne doit pas s'occuper de politique. C'est-à-dire, on ne doit pas s'occuper du budget de la nation, par exemple. Ça, ce n'est pas de notre ressort. On ne doit pas s'occuper... de toutes ces questions-là, pas de questions sociétales. Or, c'est tout le contraire de l'histoire du syndicalisme.
Et alors, on le voit dans le livre à plusieurs reprises, puisque c'est votre tour de Gaulle, donc vous allez sur le terrain, des visites sur site, hein, sur des sites qui sont soit avec des travailleurs qui se battent pour que ça ne ferme pas, etc. Et là, on voit des réactions, effectivement, soit au niveau de la direction de l'entreprise, soit au niveau des DRH, soit parfois même au niveau des pauvres gars qui font la sécurité, mais qui appliquent ce qu'on leur dit. Quand vous dites on peut être considéré comme des ennemis, on va en reparler, quoi. Hein. Alors, il y a des pages qui sont tout à fait sensibles sur Laurent Berger. Vous rapportez comment vous avez signé avec lui une tribune publiée dans les colonnes du JDD. Je précise que c'était avant que Bolloré...
Oui, précisez-le. Sinon, on l'aurait publié ailleurs.
Voilà. Et pris le journal. Sur le deuxième tour, hein, et vous dites, tous les deux, Marine Le Pen est un danger pour les travailleurs. On comprend que le fonctionnement en intersyndical, c'est pas quelque chose de simple. Moi, je me souviens, dans les années 70, programme commun du nom de la gauche, un des mantras, c'était « l'union est un combat ». J'étais presque peut-être trop jeune, mais vous vous en souvenez certainement.
oui, je me souviens.
De cela. On a l'impression parfois que l'intersyndical, pour paraphraser, c'est un combat. Et vous avez une relation de grand respect avec Berger, alors que vous dites les adhérents de la CGT, ils ont en travers un certain nombre de comportements de d'autres centrales syndicales, la CFDT, pour tout dire. Comment ça se passe, là, le travail en intersyndical, qui vous semble très important?
Oui, alors, premièrement, il y a évidemment la confrontation, entre guillemets, hein, n'est pas la même quand on est secrétaire général d'une confédération que quand on est au quotidien dans une entreprise, dans un service. Les enjeux sont importants, mais au quotidien, il y a des choses qui fâchent, souvent. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est... Moi, je pense qu'il y a besoin de montrer dans ce pays que le syndicalisme, il est utile. Or, si on passe notre temps à s'engueuler, pour être trivial, si on passe notre temps à se quereller en oubliant notre mission principale, qui est la défense des intérêts des travailleurs et des travailleuses, on montre au plus grand nombre qu'on ne sert à rien. Après, on n'a pas été souvent d'accord avec Laurent Berger. Pas été souvent d'accord. Mais on s'est jamais insulté. On n'a jamais dépassé les bornes en matière de relations. Par contre, ce que je dis, c'est que nous avons des valeurs communes. Vous avez cité cette tribune. La lutte contre le Front National ou le Rassemblement National, c'est une valeur commune. Et je pense que c'est important, encore plus aujourd'hui d'ailleurs, peut-être, vu la situation, de montrer que le syndicalisme, on en parlait au début, est internationaliste. Il défend les travailleurs et les travailleuses, quelle que soit leur couleur de peau, leur religion, leur origine. C'est important de montrer ça. Parce que si le syndicalisme qui est au cœur des enjeux, que ce soit dans les entreprises, dans l'industrie, dans les services, ne montre pas qu'il y a besoin de solidarité dans le monde du travail, c'est terminé. Donc ça, c'est quelque chose qui nous a beaucoup rassemblés. Et c'était pas évident ni pour lui ni pour moi, d'ailleurs, si vous vous rappelez, en 2022, de faire une tribune entre les deux tours. Ça faisait déjà 5 ans que Macron était là, avec tout ce qu'on a pu connaître. C'était pas évident d'écrire cette tribune. Et ben on l'a fait parce que nous avons des valeurs communes. Puis en 2023, on a considéré à juste titre que évidemment que cette réforme était mauvaise, et donc il y avait toutes les raisons de se battre ensemble contre cette réforme. Alors lui, je sais pas, mais il a dû en avoir aussi. Moi aussi, j'ai eu des réflexions classiques dans la CGT. Ils vont nous lâcher. Ouais. Quand est-ce que
vous dites, j'ai toujours pensé qu'ils ne nous lâcheraient pas.
Oui, parce
personnellement,
que,
vous dites.
Oui, oui, parce que c'est une mobilisation qui s'est préparée 6 mois à l'avance, et donc on a eu beaucoup de contacts. En plus, il avait aussi la pression entre guillemets de ses adhérents, puisqu'il y avait eu un vote au congrès de la CFDT quelques mois plus tôt qui avait dit pas de question d'un décalage de l'âge de la retraite. Donc il y avait quelque chose. Et donc des relations se sont nouées, et à chaque moment de la mobilisation, avant pendant, il n'y a jamais eu de fausses notes. Toutes les décisions ont été prises ensemble dans le respect des deux. Et évidemment, pour les autres organisations, sans leur manquer de respect, quand la CFDT et la CGT sont d'accord sur un objectif, c'est plus facile. C'est plus facile.
C'est le couple franco-allemand.
J'irai pas jusque-là. Si vous voulez, nazérien espagnol, si vous voulez, mais pas franco-allemand. C'est pas tout à fait dans la même logique. Mais oui, il y avait un ciment. Et je vous le dis, toutes les décisions ont été prises en commun, ensemble.
Avec cette remarque qui sur l'unité syndicale, parce que c'est l'occasion là, c'est là que vous évoquez Louis Vianney, qui a été un fervent militant de l'unité syndicale quand il était
du syndicalisme rassemblé.
Voilà, du syndicalisme rassemblé. Voilà, et vous dites quand tous les syndicats défilent avec le même mot d'ordre, ce qui est exceptionnel, les gens en tirent la conséquence que vraiment les mesures projetées par le gouvernement sont mauvaises. C'est pas un syllogisme, hein, c'est un constat sur l'importance de ce rassemblement.
Oui, parce que ils ont tellement peu l'habitude qu'on soit d'accord que quand on est d'accord, ils disent là ça doit être grave, puisqu'ils défilent ensemble et ils sont ensemble dans la rue. Et peut-être vous rappelez, on en avait un peu marre de défiler toujours à Paris. Et on a, parce qu'on parlait beaucoup des mobilisations dans les départements, dans les localités, qui étaient proportionnellement très très importantes dans les petites villes, les villes moyennes. Et on avait décidé, j'avais proposé à Berger d'aller défiler en province. Il m'a dit oh, ok, bon. Et on a même réussi à trouver une ville. C'était Albi. Et j'ai été frappé. Il y avait 25 000 manifestants à Albi. Et les gens étaient sur le côté en nous regardant passer. Ils criaient « Vive l'unité syndicale !» Tout un symbole. Tout un symbole. Et quel que soit leur drapeau.
Alors, il y a des pages qui sont très intéressantes. Tout est passionnant. Mais, parce que, d'une certaine façon, vous dévoilez... Enfin, c'est pas vous dévoiler, mais vous dites aussi ce que c'est que d'être secrétaire général d'une confédération comme la CGT. Il est arrivé, vous dites, les journalistes se plaisaient pour m'énerver à me désigner comme le patron de la CGT. Et vous leur répondiez à certains... Patron de la CGT, mais j'en rêve, ma vie serait tellement plus simple. Alors, vos interlocuteurs s'étonnaient de cette réponse, et vous disiez, quand un patron dit quelque chose, tout le monde l'écoute. À la CGT, c'est un peu plus compliqué que ça. Et vous dites, vous-même, ça ne correspond pas à l'image du syndicat. On se fait l'idée selon laquelle il suffit au secrétaire général de siffler pour que tout le monde se mette en grève. On se souvient, et les plus avisés d'observateurs ont encore en mémoire les sifflets des ouvriers de Billancourt en fin mai 68.
On peut y revenir.
Sifflant Georges Ségui, votre lointain prédécesseur avec les accords de Grenelle. Vous dites, c'est pas peut-être tout à fait le récit exact.
Pas tout à fait ça. C'est important l'histoire. Ouais. Je suis sûr que vous êtes très attaché à l'histoire.
Là, il s'est fait un peu chahuter quand même.
Donc, j'étais pas en 68.
Hein. Non.
Je suis très vieux, mais j'étais pas à Billancourt encore en 68. Mais j'ai croisé quelques anciens. En fait, puisque c'était la forteresse ouvrière, Georges Ségui vient avec Benoît Frachon faire le compte rendu des accords de Grenelle. Et évidemment. C'est le résultat des accords de Grenelle qui est sifflé par Georges Ségui. Parce que ça ne correspondait pas le résultat, même si c'était très important pour une grande majorité du monde du travail, hein, augmentation du SMIC, etc. Par rapport aux revendications spécifiques de Renault, c'était très loin du compte. C'est pour ça que la grève a continué après les accords de Grenelle, chez Renault, à Billancourt, au Mans, etc., jusqu'à ce que les revendications spécifiques à l'entreprise soient obtenues. Donc, la vraie histoire, comme vous voulez, c'est le résultat des accords de Grenelle qui a été sifflé, et c'est Georges Ségui qui faisait le compte-rendu.
Merci pour cette précision.
Je vous en prie.
Dont acte. Mais on a quand même l'impression, en vous lisant, que ce n'est pas un long fleuve tranquille d'être à la tête de la CGT.
C'est pas un long fleuve tranquille, non. C'est une organisation de masse. C'est presque 600 000 adhérents, avec la diversité, puisqu'on en a parlé, la diversité d'origine, la diversité d'opinion, d'engagement politique, etc., etc. Donc c'est une grande diversité. Et donc il faut... Et c'est une organisation, contrairement à sa réputation, qui est très démocratique. Je pense que c'est l'organisation... Je suis convaincu que c'est l'organisation la plus démocratique en France. Il n'y a pas de verticalité, etc., etc. Donc oui, il faut faire avancer un certain nombre d'idées que vous avez, mais elles sont parfois contestées, souvent d'ailleurs, parce que les Gaulois réfractaires, c'est aussi dans la CGT. Hein. Et donc, il faut essayer de persuader, il faut débattre. Et c'est d'ailleurs parfois un problème, je pense, c'est que parfois les discussions sont très longues. Or, il faut prendre des décisions. Et donc, j'ai souvent dit à mes camarades, c'est bien, il y a le temps du débat, mais il y a le temps de prise de décision, parce qu'il y a des choses qui ne peuvent pas attendre. Mais c'est passionnant.
Alors, un conflit qui a duré longtemps, même très longtemps, c'est ce que vous appelez la bataille du rail. Et c'est aussi l'occasion pour vous d'expliquer ce que c'est que faire grève. Hein. Alors, on a parlé tout à l'heure, hein, comment ça se déclenche. C'est un événement, je rappelle que c'était sur le statut de la SNCF, hein, en 2018, avec face à vous, madame Elisabeth Borne, ministre des Transports, hein, Édouard Philippe, Premier ministre. Bon, donc vous faites le compte-rendu, enfin le descriptif de tout cela. Et on voit la difficulté, même l'impossible dialogue avec l'État, actionnaire de l'entreprise publique, hein, alors que vous dites, comme Bernard Thibault, qui était lui aussi en 95, lors des grandes grèves de l'automne 95, qui était,
cheminot, lui,
à la tête, oui, là, il était à la tête, non pas de la CGT, parce que c'était Vianney, mais de la branche cheminot, hein, CGT-SNCF. Vous dites, comme Bernard Thibault, je défends une CGT qui soit à la fois le syndicat du non et du oui, la contestation, bien sûr, mais aussi la proposition. Et là, il y a une réflexion qui est à la fin de ce chapitre, hein, qui est très forte, parce que vous dites, les camarades disent, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour être entendu ? Et vous rappelez que là, vous étiez face à une position très dure du gouvernement, et vous dites, quelques mois plus tard, le gouvernement a répondu très différemment à une autre mobilisation sociale. Là, je vous cite, confronté au mouvement des Gilets jaunes. Cette contestation simple, mais dénuée de toute structure, permettant de nouer un dialogue et de négocier la fin du conflit, le gouvernement reculé et concédé bien plus à ces manifestants qu'à la puissante mobilisation animée par l'intersyndicale de la SNCF quelques mois plus tôt. Et là, votre conclusion, elle est lourde. Cette attitude et le mépris affiché pour le mouvement syndical à l'époque et depuis constituent une grave menace pour notre démocratie et contiennent des germes de violence dont le pouvoir porte la responsabilité. On est presque à un point central, là. C'est-à-dire que ne pas répondre à des revendications de structures organisées, c'est s'exposer à ce qu'on appelle des coordinations spontanées ou des collectifs inorganisés qui peuvent être tout à fait avec des excès. C'est ça que vous voulez dire ?
Non, ce que je veux dire, c'est que, premièrement, le refus de discuter avec les organisations syndicales, s'était passé pendant la grève de la SNCF. Ça s'est passé aussi en 2023. Je vous rappelle que malgré que 8 organisations syndicales, donc toutes les organisations syndicales françaises, aient demandé à être reçues par le président de la République, il nous a fait un bras d'honneur et c'est pas qu'une image. Et donc, ça pose question. C'est-à-dire que quand on manifeste, quand on fait grève, et d'ailleurs, des militants et des militantes disent « Mais ça sert à quoi de manifester qu'est-ce qu'il faut faire de plus ?» Oui. Donc, c'est là où on se pose des questions.
Sur le de plus.
Sur le de plus, pour être entendu. Et effectivement, les Gilets jaunes, dans une forme qui a déjà existé, enfin, pas aussi massive, même si le mouvement, faut le redire, le mouvement des Gilets jaunes, en nombre de manifestants, etc., était moins important, par exemple, que les mobilisations en 2023. Mais où il y a eu de l'énervement et des violences, alors partagées, parce que moi je pense qu'on peut parler aussi largement des violences policières. C'est le fait que eux soient reçus tout de suite, par exemple, enfin ouais. Rapidement. Ouais. Sans organisation, c'est-à-dire que, y compris entre eux, moi je les ai croisés à plusieurs reprises. Quand il y en a deux qui étaient reçus, les autres disaient mais pourquoi vous deux, et pourquoi pas nous. Enfin, c'était un peu compliqué. Ça a posé des tas de questions. Mais en même temps, quand le gouvernement et le président de la République ont compris qu'ils n'arriveraient pas, entre guillemets, à maîtriser les Gilets jaunes, ils se sont retourner vers les syndicats en disant bon, quand est-ce qu'on se parle? Et c'est typiquement donc ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire la conception qu'ils ont du syndicat. C'est venez nous aider, c'est ça leur conception. Donc voilà. Mais en tout cas, pour terminer sur ce sujet, oui, c'est une grave responsabilité de ceux qui nous gouvernent d'ignorer les mouvements sociaux et après de se plaindre de débordements, de violences, on en a entendu beaucoup, beaucoup. Ou, à contrario, de dire, mais les syndicats, vous représentez plus rien, vous n'êtes pas représentatifs, vous servez à rien, quoi. Donc on peut pas à chaque fois faire le coup du balancier. Quand ça vous intéresse, on vient vous chercher, et quand ça vous intéresse pas, vous êtes méprisé, etc.
Dans votre récit, vous citez cette phrase de vieux militants de la CGT de Boulogne-Billancourt, auprès de qui vous avez fait vos années d'apprentissage, et qui dit « On reconnaît un bon syndicaliste à la poussière qu'il a sur ses chaussures, pas sur les fesses, et comme vous l'écrivez, on ne peut pas être plus clair. » Alors, on voit que, évidemment, vous avez tenu très, très systématiquement, et c'est très bien raconté, à aller sur le terrain. Hein, vous organisiez votre tour de Gaulle, pas comme une rockstar, mais on vous invitait, vous gardiez ça en tête et vous profitiez d'un passage dans tel ou tel coin de France pour aller répondre aux invitations qui vous étaient proposées. Puis vous dites bien aussi, quand je venais sur un point chaud, ça attirait davantage les médias, c'est-à-dire que il y avait une forme de monde, comme on parle aujourd'hui en termes d'unité de bruit médiatique, comme disent les spécialistes. Philippe Martinez, ça ramenait des journalistes, et donc ça donnait de l'écho, une sorte de porte-voix au mouvement. Alors il faut lire les récits de vos visites, hein. L'usine Sanofi en grève à Sisteron, Thalès Ponto de Mer. Vous êtes considéré comme un pestiféré, là. On vous dit vous pouvez pas regarder des technologies sensibles, manque de peau. Juste après, vous êtes présent à l'île Longue, qui est quand même un des endroits les plus secrets de France.
C'est le plus secret.
Hein, et voilà, et vous êtes reçu.
C'est là où on prépare les sous-marins nucléaires.
Les sous-marins nucléaires, bon.
Alors qu'à Ponto de Mer, chez Thalès, ils fabriquaient des cartes à puces de téléphone.
Ouais, c'est ça.
C'est sensible, ça.
Et il n'y avait pas d'investissement, vous disiez.
Non, c'est une bataille pour investir dans l'entreprise.
Alors, ce qui est pas mal aussi, c'est la visite de l'usine Andros, hein, les confitures et les compotes bien connues, hein, à Biars-sur-Cerre. Hein, c'est vraiment un tour de France, on est dans la réalité.
Mais c'est donc, une partie, d'ailleurs. C'est
oui,
une partie.
Oui, j'imagine.
Sinon, le livre aurait fait
Il y aura peut-être un tome 2. Hein,
on verra.
Voilà. Et vous dites que, finalement, que la manière avec laquelle vous êtes reçu, là, par exemple, à l'usine Andros, qui, elle, fonctionne. Hein, voilà, mais... vous dites ne vous mêlez pas de nos affaires, vous n'êtes pas les bienvenus ici. Ça, c'est quelque part ce que vous comprenez, ce qu'on vous dit parfois, peut-être pas aussi clairement, mais c'est ce que vous ressentez de ces visites sur le terrain.
C'est la première chose, c'est évidemment, j'ai vu des dizaines de milliers de, je pense, je ne sais pas compter, mais des dizaines de milliers de salariés, hommes, femmes, publics, privés. Je pense que on peut pas reprocher à certains d'être des théoriciens et puis de faire la même chose. Donc, pour parler du travail, je ne vois pas autrement que d'aller voir celles et ceux qui travaillent pour qu'ils vous expliquent leur travail. Sinon, on est comme les autres. La deuxième chose, c'est qu'évidemment, vous avez certainement remarqué que quand un certain nombre de dirigeants vous parlent de leur entreprise, elle est magnifique, tout le monde est heureux, etc. Et quand le secrétaire général de la CGT veut visiter l'usine, on lui dit non, c'est pas possible. Il y a un problème. Et donc, à Andros, typiquement, et là, c'est pire, parce que c'est pas très grand, là, c'est la gendarmerie qui vous empêche de rentrer. C'est-à-dire que...
J'étais une douzaine, c'est ça.
C'est ça. C'est la gendarmerie...
De Pandore, comme dit Brassens.
Voilà. C'est la gendarmerie qui est à la porte, et donc, qui vous empêche de rentrer, c'est-à-dire que l'État met à disposition la police pour empêcher un syndicaliste d'aller à la rencontre de travailleurs et de travailleuses. C'est le monde à l'envers.
Alors vous discutez avec eux et puis bon. Ça...
Ah oui, non, mais après on a un peu de métier, cher monsieur. Donc j'aurais dit, si vous voulez m'empêcher, si vous voulez pas que je rentre, mettez-moi les menottes, embarquez-moi, mais ça va faire plus de bruit si vous faites ça que le simple fait que j'aille rencontrer les salariés.
Et le maréchal des logis chefs, enfin, vous donnez pas le grade, mais on imagine, vous dit, mais ne le prenez pas sur ce ton, monsieur Martinez.
Ah oui. Il a vu que ça allait peut-être mal tourner de son côté, mais moi j'insiste là-dessus, quoi. Et dans beaucoup d'endroits, je raconte à l'hôpital de Nîmes, c'est un service public, c'est un hôpital public, vous allez rencontrer. des fonctionnaires de la santé, etc., pour aller voir ce qui se passe, eh bien, alors que tous les directeurs d'hôpitaux disent, et le gouvernement surtout dit, ça coûte trop cher, etc., ben on paye 20 agents de sécurité à une compagnie privée à la porte pour m'empêcher de rentrer. 20. C'est ça le paradoxe. C'est-à-dire que on ne peut pas, on ne veut pas, certains ne veulent pas qu'un représentant syndical aille discuter avec le personnel dans les entreprises. C'est un comble.
Vous racontez aussi que quand ce sont des visites qui sont encadrées, enfin, par la direction, vous avez une technique avec votre ami Laurent.
Ah oui, oui.
Pour que vous puissiez quand même parler avec les
évidemment,
salariés.
Évidemment, on a une technique parce que, évidemment, on avait le droit de rentrer, mais très encadré avec le DRH, le directeur. Donc, la technique, c'était Laurent, mon ami de 35 ans.
C'est pas Laurent Berger, hein.
Non,
je précise parce que
mon camarade de la CGT,
c'est ça,
ça vous va mieux comme précision.
Il n'y a pas d'ambiguïté.
Non, c'est un autre Laurent, c'est oui. Laurent numéro un, lui. Donc, discuter
sur les problèmes techniques.
Les techniques avec le DRH et le directeur. Donc, les autres étaient très contents qu'on s'intéresse aux machines, etc. Et pendant ce temps-là, moi, je me mettais sur le côté, j'allais discuter avec les salariés. C'est une technique qui marche bien.
La question que je me posais, c'est qu'est-ce que peut faire une centrale syndicale et a fortiori le secrétaire général dans des situations particulièrement difficiles où là, pour le coup, les salariés sont au bord de faire le fameux quelque chose de plus. Alors, on a en tête, nous, Fabrice, vous vous souvenez, à Châtellerault, sous-traitant de Peugeot et Renault, hein, en juillet 2009.
J'étais secrétaire de la métallurgie, donc
je voulais vous en parler, parce que vous n'en parlez pas de nous, Fabrice, dans le livre, mais par contre, vous parlez de GMES Industrie à la souterraine, hein, 8 ans plus tard, où là, il y a une telle pression qu'il y a une menace de faire sauter l'usine, quoi, et de détruire l'outil de travail qui n'est absolument pas dans la culture ouvrière.
Pas du tout.
Qui est aux antipodes de la culture ouvrière.
Justement,
qu'est-ce que vous pouvez faire, vous, dans ces cas-là ?
C'est justement ce qu'on évoquait tout à l'heure. Il y a des tas de luttes dans ce pays qui n'intéressent pas beaucoup les médias. Alors, vous savez très bien qu'aujourd'hui, il faut tout médiatiser pour qu'on parle de vous. Donc, la seule solution qu'avait trouvée, alors, parce que j'y avais été plusieurs fois, on avait fait les médias, mais ça ne bougeait pas. Mais des fois, ça fonctionne, c'est-à-dire que les médias viennent et au moins on parle des. Sauf que là, ça faisait un paquet d'années qu'ils étaient en difficulté. Et donc, la solution, c'était, on va mettre des bonbonnes de gaz sur les murs de l'usine et on va dire, on va tout faire péter. D'ailleurs, il y a un film qui s'appelle comme ça, sur les GMS. Pour qu'on parle de nous. Et on est bien dans ce qu'on discutait tout à l'heure. Mmh. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être entendu par les pouvoirs publics, par les donneurs d'ordre, etc. Et je le dis pas dans le livre, mais c'est une phrase que j'ai entendue. Ils avaient même pensé pour vous. Vous savez, c'était au moment, à une période, c'était au moment où il y a eu Whirlpool.
Oui, à Amiens.
À Amiens. Mmh. Et donc. Marine Le Pen y a été et Macron a tout de suite couru derrière elle. Et les copains,
c'est 2017.
Oui, mais je vous ai dit, cette entreprise a été en difficulté pendant plusieurs années. Et un copain m'a dit, est-ce qu'il faut faire venir Marine Le Pen pour qu'on parle de nous? Vous voyez jusqu'où ça va. Et pourtant, c'est un copain engagé, etc. Donc, oui, il y a une forme de désespoir et on est capable de plein de choses pour pas être oublié. Ça va jusque-là. Et donc, ça renvoie au mépris des pouvoirs publics.
Alors, on a malheureusement pas le temps d'aborder tous les chapitres sur la question de la désindustrialisation et sur ceux qui en sont réellement responsables, sur la situation des travailleurs dans les secteurs particulièrement dangereux. Il y a des pages sur les égoutiers, sur le travail à la chaîne et les difficultés physiques sur une chaîne automobile. Mais il y a deux chapitres. Je veux pas qu'on se sépare avant de sans les citer. C'est fin du monde, fin du mois, même combat. Et puis, alors je vais le dire comme c'est écrit, hashtag MeToo avant hashtag MeToo. Voilà. Sur le premier sujet, la question environnementale. Alors, vous dites vous-même que lorsque vous êtes invité en août 2019, en marge du sommet du G7 à Biarritz, par la présidente d'ATA, Madame Trouvé, qui va être députée LFI par la suite, vous êtes invité à débattre avec Jean-François Julliard, qui est président de Greenpeace France. Et vous hésitez un moment avant de donner votre réponse, et au risque de critiques de certaines fédérations qui tiennent Greenpeace comme l'un des principaux adversaires de l'industrie et du nucléaire. On voit clairement les branches qui peuvent être réagir. Et vous acceptez finalement. Et qu'est-ce que vous a appris ce débat?
Ce débat, il m'a appris une chose. Enfin, après, j'en ai appris d'autres. C'est la philosophie que j'ai essayé d'avoir. C'est avant de, pour savoir sur quoi on est d'accord ou pas d'accord, il faut d'abord se parler. On assume ensuite nos désaccords. Et le nucléaire est un point de désaccord avec Greenpeace, et il est assumé totalement. Par contre, on ne peut pas continuer à avoir des marches pour le climat massives avec beaucoup de jeunes, des manifestations sociales massives avec des moins jeunes, et de se dire en quelque sorte, on a des luttes parallèles qui ne se rejoignent jamais. Mmh. Et la grande satisfaction, c'est que par exemple, Jean-François Julliard n'avait jamais mis les pieds dans une entreprise industrielle. Je lui ai fait visiter une entreprise industrielle pour la première fois de sa vie. Il rentrait, il a discuté avec les ouvriers et il s'est rendu compte que, évidemment, les ouvriers étaient sensibles à l'avenir de la planète, mais ils voulaient pas qu'on leur donne le choix entre perdre leur boulot et sauver la planète. Il fallait qu'on trouve des solutions qui permettaient et de sauver le boulot et de sauver la planète. Je pense que voilà, c'est ça, et donc. C'est important cet esprit d'ouverture, d'aller vers les autres, de discuter, de ne pas se renier, évidemment, mais de trouver des points qui nous permettent de nous mobiliser ensemble. Et en 2023, dans les manifs pour les retraites, au moins à Paris, eh bien, Greenpeace a défilé avec nous, contre la réforme des retraites. Voilà, c'est comme ça qu'on avance.
Un sujet, et il y a là pour le coup... évidemment sensible, c'est le chapitre 14, hein, donc MeToo, avant MeToo. Et ça débute par le rappel d'un échange à la Fête de l'Humanité en 2016 avec Régis Debray. Il vous demande, lors d'un débat public, il vous pose des questions, hein, c'est lui l'intervieweur.
Il était journaliste, voilà, pas philosophe.
Voilà. Et il vous dit à la Régis Debray, c'est-à-dire comme disent les jeunes, cash, est-ce que la CGT est machiste? Ce à quoi vous nous dites que vous lui répondez spontanément non. La CGT n'est pas machiste, mais il y a trop de machos à la CGT. Et vous dites, cette réponse a d'abord suscité une certaine stupéfaction dans les rangs du public, puis des applaudissements nourris. Alors, c'est un chapitre que vous consacrez à ce qu'on appelle les VSS, hein, les violences sexistes et sexuelles. C'est très précis. Enfin, vous parlez d'un cas, plusieurs cas, mais d'un cas précis au niveau de la Confédération. Comment vous avez géré cela pendant les 8 ans de votre secrétariat général? Et elle en est où, la CGT, aujourd'hui, avec, je le rappelle, pour la première fois en 130 ans d'existence, puisque c'est 2025, si j'ai bien compris, c'est les 130 ans.
Oui, c'est ça. CGT. 1895.
C'est ça, voilà.
C'était plus bien compté.
C'était plus dans mes capacités d'arithmétique que j'avais des doutes. Mais c'est pour la première fois qu'il y a une femme donc à la tête de la CGT, Sophie Binet. Comment ça se passe sur cette question essentielle?
Ça se passe que, évidemment, c'est un sujet qui nous préoccupait, ces questions de violences sexistes et sexuelles, et donc on a décidé de s'y attaquer sérieusement. Donc on a mis en place une cellule de veille pour recueillir la parole des femmes, donc avant MeToo.
Oui, oui, oui.
Et ça a effectivement libéré la parole des femmes. Pour pas être trop long, on ne peut pas mettre dans nos documents d'orientation, que nos valeurs, c'est le féminisme, c'est la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, et fermer les yeux quand ça se passe chez nous. Et moi, j'ai eu des témoignages de copines, de camarades, terribles.
Et vous dites comment on peut... On a pu faire ça, vous dites.
Et oui, comment on peut laisser passer ça? Et donc, oui, alors, évidemment, on en parlait tout à l'heure, il faut avoir le courage de ses opinions, de ses valeurs, contre vents et marées, en interne, pour aller jusqu'au bout. Et évidemment, ce n'est pas qu'une affaire de femmes. puisque cette cellule était composée à parité de 5 hommes et 5 femmes. Donc il faut que ça soit l'ensemble des syndiqués qui soit porteur de ces valeurs. Et là, c'est pas vraiment un long fleuve tranquille. En tout cas, moi, je suis satisfait, même si c'était pas la personne que j'ai proposée pour me succéder à la CGT.
Vous avez proposé Marie Buisson.
Oui, mais et j'ai eu des commentaires, comment une femme à la tête de la CGT, c'est du jamais vu. En plus, elle est de l'éducation nationale. Sauf que la finalité, c'est pas Marie Buisson, mais c'est Sophie Binet, c'est une femme, et elle vient de l'éducation nationale. Donc cette bataille, ça valait le coup de la mener. Donc si Régis Debray me posait la question, aujourd'hui, je dirais non, la CGT n'est pas machiste. Il y a moins de machos à la CGT, mais il y en a encore.
Vous évoquez l'éducation nationale, alors on va terminer par l'éducation populaire, parce que vous dites que vous y croyez véritablement, hein, vous êtes un fervent défenseur de cette... et vous dites, j'ai découvert le monde de la culture grâce à la CGT. Donc c'est un chapitre qui est très émouvant, car on vous sent passionné par ce nouvel engagement. Je rappelle, on en parlait tout à l'heure dans la loge, que vous êtes membre du comité d'orientation du théâtre de la Concorde et de la démocratie, mais vous parlez dans votre chapitre, bien sûr, de Régis Debray, je viens de le citer, mais d'Olivier Py, extraordinaire directeur du Festival d'Avignon, entre autres.
Hein, ancien.
Ancien, enfin oui, déjà, je disais dans mon esprit qu'il l'avait...
Il est parti en même temps que moi. Voilà. Ça n'a rien à voir.
Hein, mais... Ariane Ascaride, Philippe Torreton, Elsa Boublil, hein, qui est donc la directrice du théâtre. Je me disais, en lisant ces pages, est-ce qu'il n'y a pas une sorte de retour aux sources du côté du Théâtre National Populaire, dès le origine, hein, en 1920 avec Firmin Jemier, on s'en souvient, mais surtout après 51 avec Jean Villard, une forme de culture de très grande qualité rendue accessible aux plus modestes. C'est ça votre nouvel engagement?
C'est pas un nouvel engagement, c'est de reprendre les engagements de cette époque.
Oui.
L'éducation, la culture, ça peut pas être réservé à ceux qui ont de l'argent, ceux qui, soi-disant, une élite intellectuelle.
Vous rappelez, pardon, je vous coupe, Philippe Martinez, mais qu'en 1946, la CGT a milité pour le Festival de Cannes, dont je rappelle que c'était une idée de Jean Zay, hein, aussi ministre de l'Instruction publique,
d'ailleurs les
tué par la milice en 44.
D'ailleurs, les militants de la CGT Construction qui ont construit le premier palais des festivals.
Ouais, il faut le dire.
Je rappelle aussi que Jean-Paul Melbondo était secrétaire général ou président du syndicat des Français des artistes CGT. Donc il y avait un lien important entre le monde de la culture et le monde du... Mais en fait, c'est le monde du travail qui se regroupe. Les artistes sont des travailleurs. On a fait un livre, enfin, c'est pas moi qui l'ai écrit, j'ai fait que la préface sur un festival que vous connaissez, puisque c'est le festival à Uzest, où on a titré « Les œuvriers ». Vous voyez ? C'est du travail aussi. Et donc, c'est le monde du travail qui se rencontre, chacun avec sa spécialité, etc. Et oui, je pense qu'il faut militer, et il y a un vrai engagement à avoir dans la CGT. Par exemple, avec les comités d'entreprise qui ont... Alors, ça s'appelle plus comme ça, mais pour que tout le monde comprenne, les comités d'entreprise, où par facilité, par pression de l'époque, eh ben, on préfère donner les clés de l'engagement culturel à des entreprises spécialisées qui vous envoient chez Disney, chez Astérix et, plus grave, au Puy du Fou, plutôt que de vous inciter, en tout cas de vous encourager à aller au théâtre, au cinéma, vous voyez. Et donc on doit pousser à l'engagement culturel, à lire des livres. Voilà, il y a de moins en moins de bibliothèques dans les comités d'entreprise. Donc il faut, c'est vers ça qu'il faut aller. Parce que, je le répète, la culture, ce n'est pas réservé à ceux qui ont de l'argent. Et il y a des tas de spectacles. Il y en a pour tous les goûts, j'allais dire. Je finirai juste là-dessus. C'est un copain du Nord qui est metteur en scène dans une compagnie qui fait des pièces dans les collèges. Et un jour, un de ses élèves lui dit « J'aime pas le théâtre ». Bon, il lui dit « Et le caviar, tu aimes ça ?» Et le môme lui répond « J'ai jamais goûté ». Et ben, il lui dit « Le théâtre, c'est comme le caviar. Pour savoir si c'est bon, il faut y goûter ». Et ben, ça, c'est une bonne philosophie, je trouve.
dans au terme du tour de Gaulle, on va terminer là-dessus, hein, les deux amis Astérix et Obélix offrent à leurs camarades du petit village assiégé qui résiste toujours à l'envahisseur romain tout un sac de produits variés. Chacun d'eux, de ces produits est un souvenir emblématique de chaque ville visitée et traversée. Alors, de tous les terrains de lutte, vous avez dit tout à l'heure, j'ai peut-être vu des dizaines de milliers de salariés que vous avez défrichés, labourés, puis ensemencé de ces voyages, on peut dire que vous êtes, on peut vous déclarer compagnon du devoir syndical fini, mais pas au sens d'achever, ah bon, mais de maîtriser. Hein. Et vous ressortez, dites-vous, résolument optimiste. Vous le dites, nous ne sommes pas les mangeurs de merguez et les brûleurs de palettes que l'on présente, souvent de manière ridiculement réductrice. Vous partagez cette phrase prononcée par de nombreux camarades, la CGT ne me doit rien, mais je dois tout à la CGT. Et puis, dernière phrase, Georges Séguy, grand résistant, grand syndicaliste, il ne suffit pas de s'indigner, il faut s'engager. Alors, si je vous dis, Philippe Martinez, et ça sera ma dernière question, pour revenir à la petite affichette offerte par notre ami commun, on peut le dire, Jean-Claude Gomez, et la paraphraser, si je vous dis que vous avez beaucoup aimé, et aimé encore vivre dans la pratique syndicale, bien mieux qu'en théorie, parce que dans la pratique syndicale, tout l'engagement y passe bien, même si ça se passe pas toujours bien, mais ça y passe bien, vous êtes d'accord avec moi?
Oui, oui, je suis d'accord. Entièrement d'accord.
On va terminer sur ce bon accord. Merci.
Merci à vous.
Merci, Philippe.
Merci.